On est de retour maintenant. Puis il y a quelqu'un qui me parle du snobisme par rapport au camping. Là, les gens se demandent ce que Marc Boilard avait dit parce que je vous ai dit que Marc Boilard en avait parlé. Il avait dit, puis il était semi-blagueur, mais semi-sérieux aussi. Il m'avait dit que le camping, c'était un loisir de pauvre. Puis ça m'avait beaucoup marqué parce que, un, c'est faux. Puis il sait, là, Marc, il est pas fou. Là, il sait bien qu'il y a des gens qui achètent une roulotte et que ça coûte plus cher que des maisons. Là, c'est clair que c'est loin d'être un loisir de pauvre. Mais c'est, je sais pas pourquoi, c'est vu comme ça. C'est la perception. Puis là-dessus, il avait raison. C'est pas la réalité, mais il y a une perception que quelqu'un qui s'en va sur un terrain de camping plutôt que s'en aller dans un motel ou même à l'hôtel, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Puis qu'il y a quelque chose que c'est la petite misère pour le petit monde. C'est triste à dire, mais c'est malheureusement ça. Je veux vous parler maintenant de l'estimation du pourcentage de gens qui meurent lorsqu'ils sont atteints de coronavirus. Parce que depuis le début de la pandémie, on en entend beaucoup parler et il y a toutes sortes de chiffres qui sortent. Rappelez-vous qu'au départ, on nous disait que c'était pratiquement 9 % des gens qui attrapaient ça, qui en crevaient. Après ça, on a parlé de 3,5, 4 %, puis il y a eu toutes sortes de chiffres qui ont été lancés. Puis là, plus ça avance, plus le chiffre fond diminue comme la neige au soleil il y a 2 semaines. Tellement que, rappelez-vous, aux États-Unis, on disait qu'il y aurait 2 millions de morts. Il y a eu plein d'estimations et aujourd'hui, on est en train d'évaluer les vrais chiffres. Et pour en discuter, on va aller parler à un chercheur à l'Institut économique de Montréal, Galen Campan, qui est au bout du fil. Bonjour, Gaël.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir dans votre programme.
Ça me fait plaisir. Écoutez, d'abord, expliquez-nous un peu là, les chiffres par rapport au coronavirus. Parce que c'est vrai, hein, au début, là, on estimait qu'il y avait jusqu'à 3-4 % des gens qui attrapaient le virus qui en mouraient. Là. Donc, c'était un virus qui était fatal pour une personne sur 25, une personne sur 35. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte que les chiffres sont en train de diminuer considérablement plus on en connaît sur la pandémie.
Oui, absolument. En fait, donc les chiffres d'il y a à peu près 2 mois étaient essentiellement basés sur il y avait très peu de données factuelles, donc ils étaient essentiellement basés sur des modèles, des simulations, des hypothèses. Et avec le temps, on a collecté de plus en plus d'informations de terrain. Maintenant, on connaît les chiffres réels de contamination, on connaît les chiffres réels de décès. Donc c'est normal que le CDC, qui est un organisme de référence, mettent à jour ses prévisions et tiennent compte de ces nouvelles informations disponibles pour faire des prévisions qui sont cette fois plus fiables et plus réalistes puisque sont basées sur des données historiques récentes et pas juste sur des modèles.
Donc là, vous avez publié une étude à l'Institut économique de Montréal à ce sujet-là, un point de vue qui explique justement que le chiffre réel serait un peu moins de 0,3 % des gens infectés qui meurent de la COVID-19.
Absolument, c'est le nouveau chiffre qui est publié par le CDC. Ce n'est pas l'Institut économique de Montréal qui le publie, hein, c'est le CDC, qui est un organisme de référence aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Et donc, on se fait le relais, effectivement, de ce chiffre, puisque quand un organisme de référence comme le CDC révise ses prévisions, ben, il faut en tenir compte et éventuellement même ajuster les dispositifs sanitaires qui sont là pour avancer plus rapidement.
Monsieur Campan, je veux que vous m'expliquiez aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent là, les gens ne meurent pas du virus, du coronavirus comme tel, mais ils meurent d'une maladie qui est sous-jacente. On le voit que plusieurs des personnes qui meurent présentement, d'abord, sont très âgées, puis souvent, c'est des gens qui sont asthmatiques, cancer de poumons, emphysème. Il y a un paquet d'autres causes. Comment on peut savoir s'ils sont morts vraiment, véritablement du coronavirus ou s'ils ne sont pas morts de toutes les autres maladies qu'ils ont?
Oui, effectivement, c'est un très bon point que vous faites. Et d'ailleurs, on a publié très récemment aussi sur ce sujet, donc en cherchant à expliquer la différence entre mourir du coronavirus ou mourir avec le coronavirus. Et effectivement, dans les faits, donc cette fois, on n'est pas dans les modèles, on est dans les faits, on sait que l'âge médian des personnes qui décèdent au Canada de ce virus, c'est de 84 ans. Et qu'effectivement, pour les personnes plus jeunes qui décèdent, qui sont vraiment une toute petite minorité, elles ont souvent une maladie chronique pour laquelle le virus fait office de catalyseur ou qui dès que leur situation se dégrade, et c'est une toute petite partie de la population. Ça concerne, le virus aujourd'hui, on le sait, concerne essentiellement les personnes âgées, et donc pas le reste de la population.
Il y a quelqu'un qui me dit, demandez-y donc si le taux de mortalité est en fonction du degré de contamination. Là, je ne suis pas convaincu que je comprends la question, là, mais peut-être que vous la comprenez mieux que moi. Mais est-ce qu'il y a un rapport avec le degré de contamination? Non, tu es contaminé ou tu ne l'es pas, c'est tout. Hein?
Oui et non, c'est-à-dire sur le plan statistique, ce qu'on appelle ce que vous appelez le degré de contamination, qui s'appelle aussi prévalence, c'est important parce que, par exemple, sur certaines maladies... comme la varicelle, on va dire que 95% de la population a contracté un jour ou l'autre, et donc parmi les gens qui décèdent à un moment donné, il y a 95% des gens qui sont décédés avec la varicelle. Et pourtant, ils ne décèdent pas de la varicelle. Donc effectivement, le degré de prévalence, le degré de contamination dans la société influence fortement la mortalité qu'on peut attribuer exclusivement à un des facteurs qui est le virus.
Mais de toute façon, la façon dont on compte, je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais ici au Québec, on comptabilise les morts de façon très, très large. C'est-à-dire que dès qu'une personne âgée meurt, puis dans un centre de personnes âgées ou un CHSLD où il y avait un seul cas de coronavirus connu, cette personne-là automatiquement est considérée comme étant morte du coronavirus sans autopsie. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont comptabilisés présentement comme étant morts du coronavirus, mais ils l'ont jamais contracté réellement.
Ça, je peux pas m'exprimer sur ce sujet. Pour l'instant, on considère que les gens reportent les décès de bonne foi et que, encore une fois, que les tests se sont faits avant le décès pour confirmer que la personne avait bien contracté le virus, sans pour autant dire que c'est ça la cause de son décès. Donc, je peux pas m'exprimer sur ce sujet plus que ça.
Le docteur Horacio Arruda, le directeur de la santé publique, nous a dit il y a quelques semaines que les mesures qu'il avait mises en place avaient sauvé entre 30 et 60 000 vies. Sauf que si ce que vous dites est vrai, puis les chiffres sont de plus en plus documentés, là, que ça serait moins de 0,3% de mortalité chez les gens qui sont infectés, c'est impossible. Ça veut dire que même si toute la population du Québec avait attrapé le virus, on n'aurait jamais eu 60 000 personnes de mortes. On n'aurait même pas le tiers de ça. Donc, il y a eu beaucoup de chiffres qui nous ont été présentés, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était très gonflé, ces chiffres-là.
Là. De la même façon qu'on avait surestimé les décès futurs sur la maladie, on a forcément surestimé les bénéfices d'un certain nombre de politiques publiques qui étaient mises en place pour éviter ces décès.
Parce que 0,3%...
Excusez-moi. Le directeur de la santé publique sera aussi capable de réviser, on va dire, les bénéfices,
à la baisse.
Les coûts-bénéfices qui sont liés à la réalité du terrain.
On a parlé souvent, il y a des gens qui disaient que c'était comme une grippe, une mauvaise grippe, ce qu'on voyait présentement. Mais quand on regarde les chiffres, une grippe, c'est quoi? C'est 0,2% à peu près le taux de mortalité des gens qui contractent l'influenza?
Oui, ça varie avec les années. Je crois qu'il y a des bonnes années et des mauvaises années, comme souvent. Mais oui, c'est dans cet ordre de grandeur.
Donc, on n'est pas si loin d'une mauvaise année où il n'y aurait pas de vaccin de grippe, là, en termes de mortalité.
En termes de mortalité, c'est vrai. En même temps, il ne faut pas oublier que c'est un nouveau virus. Donc, on ne savait pas ça avant. Hein. On est toujours plus intelligent après coup. Et que donc, dans l'incertitude et face à l'inconnu, il y a eu, je pense, effectivement, une réaction plutôt extrême. On a voulu éviter de se voir reprocher d'en avoir pas fait assez. On a préféré se voir reprocher éventuellement d'en avoir fait trop. Mais de nouveau, on est toujours plus intelligent après coup.
C'est clair. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que là, si jamais on a une deuxième vague en septembre, il ne faudrait pas non plus répéter les erreurs du passé, c'est-à-dire que les mesures extrêmes de tout fermer l'économie se justifieraient plus, là. On n'a jamais fermé l'économie parce qu'il y avait une grippe, une mauvaise année, puis qu'on n'avait pas le bon vaccin. Là.
Ben, effectivement, ça pose la question, mais je pense que les autorités publiques sont responsables et qu'elles sauront mettre en perspective les nouvelles informations et la réalité du terrain pour avoir une approche plus ciblée, c'est-à-dire une approche qui concerne les vraies populations à risque, qui sont plutôt les personnes âgées, mettre en place des dispositifs d'isolement pour ces personnes-là, de mettre en place plus de tests, de tester plus l'ensemble de la population, pour avoir une meilleure mesure du risque et donc de prendre les mesures appropriées parce qu'on a besoin de déconfiner rapidement puisqu'on est en train de souffrir beaucoup.
Absolument, du confinement.
Les colonies sont en train de souffrir beaucoup du confinement.
Gaël Campan, chercheur à l'Institut économique de Montréal, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Donc, c'était un chercheur de l'Institut économique de Montréal qui nous explique comment ça fonctionne, comment que le taux est de 0,3%. Puis, il a raison, là. On ne le savait pas au début de la crise. Mais aujourd'hui, on le sait. Fait que ça veut dire que s'il y a une autre vague, il y en aura peut-être pas, là, on n'a aucune idée. Là. Même les scientifiques ne le savent pas. Mais si jamais il y a une autre vague, c'est sûr qu'il va falloir prendre acte de ce qui vient de se passer puis tirer des leçons. À 0,3%, on ne s'ajustifie pas la fermeture de l'économie d'aucune espèce de façon. Parlant de bilan et de mort, justement, ben, je vous donne le bilan du jour parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de conférence de presse du premier ministre François Legault, ni même d'un de ses ministres. Il y aura juste, en milieu d'après-midi, une conférence de presse du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui va expliquer les détails pour la réouverture des centres d'achat à Québec la semaine prochaine. Mais il n'y aura pas de conférence de presse officielle. Puis les bilans, quand il n'y a pas de conférence comme ça, ils vont sortir un peu plus tôt. Fait que vous voyez, là, ils viennent de sortir il y a quelques minutes. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a 70 nouveaux décès qui s'ajoutent au total de 4139 victimes depuis le début de la crise. Il y a 48 598 cas confirmés. C'est une hausse de 611. Il y a 1403 hospitalisations. C'est une baisse de 22. Et aux soins intensifs, on dénombre 181 personnes. C'est une augmentation de 2. Donc, ici, c'est quand même assez stable. Il n'y a pas de nouveaux décès du côté ni de la Capitale-Nationale, ni de Chaudière-Appalaches. Il y a 29 nouveaux cas dans la Capitale-Nationale, 2 dans Chaudière-Appalaches. Mais soyez prudents parce que il y a 29 nouveaux cas sur un total de 1441 dans la région de Québec. Puis 488, ça arrive sud. Mais donc, le 29 de plus de notre bord, puis le 2 de plus, ça arrive sud. Ces 31-là, il y en a combien dans le 2000 là, au total qui est infecté depuis le début, qui ont guéri pendant ces heures-là? Probablement qu'il y en a plus que le nombre de nouveaux cas. Donc, ça veut dire qu'à tous les jours, il y a de moins en moins de monde. Parce qu'on nous présente les chiffres en termes de cas, mais on nous soustrait jamais les guéris, comprenez-vous? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on nous présente ces chiffres-là. On prend une courte pause, restez là, on revient avec les nouvelles.